France Culture. Pion du soir, Quentin l'a fait.
L'historiographie du 19e siècle souffrirait de l'impensé environnemental. En étudiant l'histoire de France par le prisme de la question de l'environnement, les auteurs de La Nature en Révolution proposent une vision nouvelle de ce siècle des révolutions, qu'elles soient politiques ou industrielles notamment. Il ne faut pas croire en effet que l'industrialisation de la France s'est opérée sans être traversée elle-même de débats, de controverses en lien avec l'écologie. Bien au contraire, elle a suscité de nombreuses polémiques, de nombreuses discussions dans une société qui dépendait majoritairement du vivant et de sa biomasse. Alors, en quoi porter un regard environnemental sur l'histoire de France permet-il de mieux la comprendre? Pour en discuter, un invité ce soir, Jean-Baptiste Fressoz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences et des techniques, chargé de recherche au CNRS, et l'ouvrage pour lequel vous venez ce soir dans l'émission est tout collectif. Je vais en citer les autres auteurs: François Jarige, Thomas Leroux, Corinne Marache, Julien Vincent, et son titre, La Nature en Révolution, une histoire environnementale de la France 1870-1780. 1870. C'est le premier volume d'une trilogie passionnante et c'est aux éditions de La Découverte. Merci à vous d'être ce soir dans Question du Soir. Et pour commencer, Jean-Baptiste Fressoz, une question plus méta que pour le reste de l'histoire que nous entreprendrons avec vous. Mais pourquoi l'histoire de l'environnement, l'histoire environnementale d'ailleurs plus exactement, a-t-elle mis tant de temps à émerger en France?
Elle a émergé dans les années 2000. Elle a émergé un peu plus tard qu'aux États-Unis, effectivement, où c'est vraiment dans la fin des années 60, en lien avec des catastrophes environnementales, des marées noires en particulier en Californie, plus l'émergence de la question environnementale aux États-Unis. Le jour de la Terre en 1970, il y a pas loin de 5 millions d'Américains quand même qui défilent. Donc c'est sûr que les questions environnementales se posent fortement aux États-Unis à ce moment-là, dans les années 70. En France, c'est pas, disons, que la question soit absente, loin de là. Il y a plein de travaux, en fait, sur ce qu'on appellerait maintenant l'histoire environnementale, mais il y avait une certaine méfiance de la part des historiens vis-à-vis de la question environnementale. C'est-à-dire, on ne voulait pas écrire une histoire qui semblait anachronique en plaquant sur le passé des préoccupations qu'on considérait être celles des années 70 ou celles qui émergent dans les années 70, à savoir les préoccupations de l'écologie politique. Et je dirais que la génération à laquelle j'appartiens, celle des années 2000, on va dire, a montré à quel point, en fait, il faut se garder d'avoir un regard condescendant sur les sociétés passées, et que ces sociétés du passé, en particulier celles du 18e, 19e siècle, se posaient des questions extrêmement profondes, en fait, sur ce qu'on appellerait maintenant les questions environnementales, et avaient une forme de réflexivité, une inquiétude vis-à-vis de ce qui faisait sur l'environnement. Donc l'histoire environnementale telle qu'elle s'écrit depuis les années 2000, c'est à la fois l'histoire de la transformation des environnements, qui se faisait de manière tout à fait rigoureuse et très bien en France, au moins depuis les années 70, si ce n'est avant, mais c'est une histoire aussi qui prend en compte le fait que les sociétés étaient extrêmement réflexives vis-à-vis de ces transformations.
Pourquoi est-ce que cette trilogie, pourquoi cette histoire-là, vous la faites commencer en 1789, donc pendant la Révolution? Quand on regarde pourtant les grandes transformations liées à l'énergie, les grandes transformations liées au charbon, aux énergies, aux ressources de la terre, aux ressources naturelles, elles démarrent bien avant 1789 pourtant.
Alors, 1789, d'un point de vue d'histoire environnementale, d'histoire matérielle, j'ai envie de dire, c'est une date parfaitement arbitraire qui n'a pas grand intérêt.
Vous assumez l'arbitraire sur ce point-là?
Complètement, je vais vous dire pourquoi. En gros, les grandes transformations industrielles ont lieu un peu plus tard, plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est là où on commence à extraire beaucoup de charbon, que se met en place le réseau ferroviaire, qui est une spécialisation agricole. Je dirais que c'est là que les grandes transformations environnementales commence. Et encore, ces grandes transformations sont assez mineures par rapport à ce qui se passera dans les années 50. Mais ce qui nous a semblé important avec 1789, c'était de montrer à quel point la Révolution place d'entrée de jeu, d'emblée, l'environnement comme une grande question politique. C'est ça qui est le plus frappant, je trouve. C'est-à-dire que les assemblées révolutionnaires ne cesse de débattre de questions qu'on qualifie maintenant d'environnementales, qu'il s'agisse de pêche, de forêt, énormément de forêt, d'énergie, alors on n'employait pas le terme d'énergie, mais de bûches, de bois, d'hydraulique, etc., de climat. On parlait déjà de changement climatique, en fait, en 1789. On se préoccupait de l'épuisement des mines de charbon dans les assemblées révolutionnaires en 1792. Donc, en fait, ces questions environnementales, elles sont centrales au moment de la Révolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant la Révolution, il y a une politisation, en fait, de ces ces questions environnementales. Pour une raison assez simple, c'est que les révolutionnaires, quand ils arrivent en 89, ils blâment l'ancien régime d'avoir détruit l'environnement, d'avoir détérioré le territoire français et d'avoir changé le climat, d'avoir même produit la dégénérescence des Français. Et ça, c'est une accusation assez forte, en fait, qui est portée contre la monarchie, qui va très vite se retourner contre les révolutionnaires eux-mêmes. Donc, en fait, d'entrée de jeu, l'environnement est central en politique. C'est pas du tout une histoire où on se serait pas du tout préoccupé d'environnement, mais que de politique, et puis peu à peu, au cours du XXe siècle, on se préoccupe d'environnement. Ça, c'est pas du tout le bon récit. En fait, dans des sociétés qui sont fondamentalement agraires, c'est-à-dire qu'ils dépendent bien plus que nous maintenant du climat, de la fertilité des sols, de la qualité des eaux. Évidemment que les questions environnementales sont absolument centrales. En fait, ils n'avaient pas les moyens politiques de ne pas dépendre de l'environnement. Pardon, ils n'avaient pas les moyens technologiques de ne pas dépendre de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre puits est pollué, aller chercher de l'eau ailleurs, c'est extraordinairement compliqué. Là, maintenant, quand on manque d'eau dans le sud-est de la France à cause des canicules et du changement climatique, eh bien, on fait venir des camions citernes qui peuvent approvisionner les villages, ce qui n'était évidemment pas possible en 1789.
Je cite Jean-Baptiste Fressot, cet ouvrage collectif « La nature en révolution ». Répondre aux défis de la révolution implique de construire un rapport particulier à l'environnement. Une écologie à la fois matérielle, sociale et mentale, une écologie républicaine. Bien sûr, les contours de cette écologie politique héritent du passé, de la physiocratie de Montesquieu ou encore de Rousseau, mais l'écologie républicaine doit aussi être une pratique. Avant d'essayer de comprendre justement en quoi elle est également une pratique, dites-nous, expliquez-nous ce qu'est l'écologie républicaine d'un point de vue théorique.
Alors, le mot écologie peut surprendre quand on l'emploie en 1789, parce que c'est un mot effectivement qui apparaît seulement dans les années 1860. Mais il faut bien savoir qu'en fait, il y avait tout plein de notions assez proches, en fait. Et une notion absolument centrale à l'époque, c'est celle, en fait, d'économie de la nature. C'est-à-dire, ce mot-là décrit l'interconnexion de tous les êtres vivants. Ça explique que la nature est une entité tissé de relations, de symbiose, d'entraide, de compétition aussi. Mais en fait, on pense le vivant en continuité et on pense les sociétés humaines en continuité avec le vivant.
Ça rappelle la notion contemporaine de vivant, justement, qui émerge aujourd'hui.
Et ça rappelle, en fait, la notion tout simplement d'écosystème. Alors, pourquoi la notion d'économie de nature est très importante? Je crois qu'il faut se remettre dans les cadres mentaux de l'époque. La doctrine dominante sur la nature, à l'époque, elle est créationniste. On pense que la nature est une création par un être infiniment supérieur et que tout a été organisé pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'homme. C'est très anthropocentrique aussi. La doctrine centrale à l'époque, ce qu'on appelle la théologie naturelle. Et la question qu'on pose dans ce cadre de pensée-là, c'est à quoi ça sert ce morceau de la nature pour les humains? À quoi ça sert les océans? À quoi ça sert les forêts? À quoi ça sert les montagnes? Bon. Et dans ce cadre-là, vraiment, on pense la Terre tout entière comme un tout, un peu comme un système, un peu comme la théorie du système Terre de nos jours. Alors, qu'est-ce que ça a à voir la République là-dedans, vous allez me dire? En fait, dans les années 1792-93, un des enjeux idéologiques centraux, alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est en fait de remplacer un peu le catholicisme. Et il faut retourner contre le catholicisme ses propres armes, à savoir des cultes, des êtres qu'on va adorer. Et la nature fait partie de ces êtres qu'on met en avant comme pouvant fonder un nouveau culte républicain. Et ça prend c'est assez concret. C'est-à-dire que les théophilanthropes, qui est une religion poussée par le directoire, donc à partir de 1795, met vraiment en avant même la Terre comme un être vivant, comme quelque chose qu'il faut adorer. On fait un culte à la Terre, un petit peu à Gaïa, si vous voulez, si on employait un terme anachronique. Donc vraiment, cette volonté de créer des nouveaux imaginaires, en fait, fondés sur une forme de panthéisme, joue un rôle important pendant la Révolution. Puis après, il y a d'autres aspects. Un des gros problèmes de la Révolution, c'est comment on gouverne un peuple de paysans libres. C'est un vrai gros sujet.
Ça, c'est la dimension pratique, justement.
Voilà. Là, on est vraiment dans le concreto concret. Bon. Le 14 juillet 89, pour plein de gens en France, c'est perçu comme on a droit à avoir accès à la nature, à des bouts de la nature dont on estime avoir été spoliés, en particulier dans les forêts. Et les paysans retournent faire leur bois, envoient paître leurs animaux dans des forêts aristocratiques ou du clergé, qui ont été nationalisées la nuit du 4 août. Et ça suscite une immense angoisse parmi les députés parisiens, qui voient ça d'un très mauvais œil et qui pensent au contraire que la propriété privée, c'est la bonne manière de gérer l'environnement. Ils se défient des communaux. Et le problème, c'est que c'est compliqué de gérer, évidemment, les actions de 20 millions de paysans français. Et donc, la manière de faire, c'est de dire on va inculquer à la paysannerie un respect des forêts, par exemple. Et donc, on voit vraiment une forme de, dans une littérature populaire, une forme d'écologie populaire à destination des campagnes qui explique à quel point des arbres dépend en fait toute la nature et dépend en particulier le climat. Que ce sont les forêts qui génèrent les pluies fécondantes. Et que si on attente, si on déboise trop, en gros, bah, en fait, on va perturber le climat et ça va produire des catastrophes, des famines même. Donc, il y a vraiment tout un discours de la conscience environnementale qui est poussé par un discours semi-savant dans les campagnes populaires sous la Révolution, effectivement.
Il y a une idée forte, Jean-Baptiste Fressoz, notamment dans le champ de la philosophie, l'idée selon laquelle les assemblées humaines, les assemblées représentatives auraient extériorisé, auraient externalisé même les questions environnementales pour se concentrer uniquement, seulement sur les questions humaines, les questions de gouvernementalité des humains et des sociétés humaines. Est-ce que justement, lorsqu'on examine dans le fond des choses, lorsque, comme vous l'avez fait, on se plonge dans les archives révolutionnaires, on constate effectivement cela? Pourtant, quand je vous lis dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, on parlait bien de pénurie de combustible, de marécage, d'infection d'air, de la gestion des forêts, de la surpêche, de la disette de poissons. On constate bien que ces assemblées se sont saisies des questions environnementales pourtant.
Elles sont absolument centrales et omniprésentes pour la raison que j'ai rappelée. Ce sont des sociétés qui dépendent profondément de tous ces éléments de la nature. Et en fait, ça renvoie à la thèse qui était à la mode en philosophie politique, en particulier celle de Bruno Latour dans les politiques de la nature, consistant à dire ce que vous venez de préciser, en fait, que le gros problème de l'environnement, ce serait qu'en fait, la représentation politique moderne n'aurait pas pris en compte les non-humains. Et c'est vrai qu'au moment où s'invente en fait la représentation politique moderne, en France, au contraire, les non-humains sont archi omniprésents. On parle que de ça et on se dispute que à propos de ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est vrai que quand on regarde en historien des discours, en fait, qui viennent plutôt de la philosophie, de la sociologie, bah forcément, on est un petit peu déçu parce que souvent, ces discours-là servent à mettre en avant notre propre excellence, au fond. C'est pour dire, c'est que depuis les années 70 qu'on se préoccupe d'environnement, ou alors maintenant il faut entièrement refonder tous nos systèmes politiques pour penser comme il faut l'environnement. Le problème, c'est qu'en fait la destruction des environnements s'est faite en toute connaissance de cause et s'est faite en dépit du fait que les non-humains étaient relativement représentés en fait dans nos institutions.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'un historien des techniques et de l'environnement que vous connaissez bien, puisqu'il est votre co-auteur. Il s'appelle François Jarige et il s'est exprimé dans « Comprendre et agir » le 3 septembre dernier.
L'idée de progrès technique émerge à ce moment-là, au 19e siècle. L'idée de progrès est bien plus ancienne, mais l'idée d'associer le progrès des sociétés, le progrès des civilisations à ce phénomène, à cette réalité autonome de plus en plus perçue comme ayant sa sphère propre qu'on appelle la technique, tout ça se met en place entre les années 1830 et les années 1860, qui correspondent au début de l'industrialisation, au basculement aussi dans des sociétés fossiles. L'idée de progrès technique, elle est spécifique. Elle repose sur trois piliers. Elle identifie déjà le progrès au progrès des techniques, c'est-à-dire d'un ensemble de phénomènes spécifiques, d'où découleront naturellement tous les autres progrès. Et c'est en cela qu'il y a un renversement anthropologico-philosophique, si vous voulez, des grosses catégories, qui s'opère à ce moment-là. C'est-à-dire que cette idée de progrès, qui est la façon nouvelle, moderne, d'envisager le rapport au temps qui s'est constitué depuis la Renaissance sur la longue durée, est ramenée, est absorbée par une conception réduite du progrès, ramenée à la puissance des forces productives qu'on identifie de plus en plus à la technique.
Alors suivons François Jarige dans le 19e siècle. Il y a une idée extrêmement répandue sur le 19e siècle, c'est le siècle par essence, par construction même du progrès technique, du progrès absolu. Et c'est un siècle qui délaisserait totalement, entièrement les questions environnementales. Là aussi, en vous lisant, on découvre que c'est faux.
Alors non, le fait est que le 19e siècle, effectivement, il y a tout un blabla sur le progrès, mais ça se réduit pas du tout à Jules Verne et au discours des banquiers républicains. Voilà, ce serait vraiment réducteur, et le 19e siècle a toujours été très ambigu vis-à-vis de la technique, bien conscient des effets détrimentaux sur l'environnement, sur les risques que la technique faisait peser. Donc ça vraiment, effectivement, c'est un cliché assez scolaire, mais de fait, quand on voit l'énormité des travaux et des réflexions, enfin, des travaux contemporains et la plus grande encore énormité des réflexions du 19e siècle sur les méfaits de la technique, sur les dangers de la technique, sur les effets de la technique, on peut
c'est
pas
vite
du tout tenir.
Brèche.
Ouais, on peut pas tenir ce discours-là, c'est pas possible.
Alors justement, comment ces questions environnementales se sont-elles appropriées par les acteurs du temps? Si on se concentre justement sur cette première partie du 19e siècle, si on se demande à quoi ressemble la France d'un point de vue matériel, écologique, environnemental dans cette première moitié du 19e, comment est-ce qu'elle permet de mieux comprendre la dimension politique du combat environnemental à ce moment-là?
Alors, le premier point, je pense, c'est en fait les questions environnementales, c'est pas tant qu'elles soient appropriées, c'est qu'elles soient un peu c'est la ligne de base, en fait. Pour une raison toute simple, l'environnement est la catégorie centrale de la médecine de l'époque. C'est-à-dire, pour expliquer les épidémies, on n'a pas de meilleure théorie à l'époque que dire il y a une altération de l'environnement. Et dans ce contexte-là, il est évident que l'industrialisation et son cortège massif de pollution n'allaient pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Et c'est pour ça que, dès la fin du XVIIIe siècle, en fait, les premières usines, quand elles arrivent, chimiques en particulier, on voit des pétitions extrêmement virulentes en disant « si vous autorisez cette usine, vous allez créer non seulement des épidémies, mais même la dégénérescence de la population ». Parce qu'on se situe dans ce cadre-là où l'environnement, les climats aussi, on disait, façonnent très profondément le vivant et les humains. Donc vraiment, l'environnement est absolument central. Je faisais référence au créationnisme. Si on pense que la nature, la planète, a été faite de manière optimale, déforester des continents entiers comme en fond d'Amérique, bah forcément, ça pose question.
C'est abîmer la création.
C'est abîmer la création, et donc ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques, puisqu'une fois encore, si les forêts elles étaient là, c'était pour le bien de l'humanité, en fait. Donc vraiment, la préoccupation environnementale est première. Ce qui est intéressant, c'est pas d'étudier comment peu à peu on devient conscient, dans une sorte de vision progressiste de l'écologie. En fait, c'est plutôt comment on passe outre. Comment on passe outre ces connaissances et ces inquiétudes pour s'industrialiser, pour se moderniser, pour déforester, etc., etc. C'est ça, en fait, l'histoire environnementale. C'est plutôt l'histoire d'une désinhibition. C'est pas du tout l'histoire d'une prise de conscience.
Dans le même temps, Jean-Baptiste Ressoz, vous faites comprendre dans cet ouvrage qu'au XIXe siècle, la France se caractérise par sa capacité à externaliser une part importante de son empreinte environnementale. Là aussi, expliquez-nous en quoi c'est une dimension fondamentale pour comprendre l'état environnemental de la France et les imaginaires qui l'entourent.
Alors, il y avait une vision dans l'historiographie où, en fait, la France était un peu la perdante de la globalisation économique du 19e siècle. C'est l'Angleterre, évidemment, qui réussit parfaitement à s'insérer, mais à organiser le commerce international autour d'elle. Alors, il y a du vrai dans cette historiographie, mais ça oublie un fait majeur, c'est que la France est, j'ai envie de dire, le grand parasite, c'est pas forcément le bon terme, du 19e siècle. C'est-à-dire, elle importe un tiers de son charbon. Elle importe beaucoup de biomasse, de bois, elle importe des produits agricoles, elle importe quasiment tous ces non-ferreux, ces métaux non-ferreux, le cuivre, le plomb, le zinc. Et donc, en fait, la France a la particularité d'être la seule grande puissance qui a un commerce extérieur en termes de tonnes de matière ultra déficitaire. Enfin, pas ultra déficitaire, déficitaire. Et par contre, elle a un commerce extérieur en termes d'argent positif. Donc, en fait, elle est très forte pour transformer des matières premières en produits à haute valeur ajoutée qu'elle revend ensuite dans le monde entier. Par exemple, si on prend le cas du charbon, la France dépend beaucoup de la Belgique et de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs en Belgique et en Angleterre qui triment en fait pour que les Français achètent du charbon. Et le point intéressant, c'est comme la France se situe en fait, elle est très bien située, elle est proche de la Belgique et de l'Angleterre qui sont quasiment en compétition pour fournir le marché français. Donc en fait, plein de choses qu'on lisait comme des faiblesses, du genre ah la France dépend, mon Dieu, du charbon anglais, du charbon belge. En fait, on peut aussi retourner ça et voir ça comme quelque chose de très positif. La France importe du charbon bon marché et vend des tissus en soie extraordinairement coûteux aux Anglais et aux Belges, vous voyez. Et aussi un autre point intéressant, je trouve, la France profite de sa proximité avec Londres, qui est le plus grand entrepôt de matières premières du monde au 19e siècle. Et ça joue un rôle fondamental. Par exemple, dans les années 1850, il y a des grandes maladies des vers à soie. Je vous ai dit, la soie, c'est vraiment le produit phare du commerce extérieur français. Des grandes épidémies dans les élevages de vers à soie dans le sud de la France. La soierie française aurait pu complètement sombrer. Mais elle profite en fait de l'infrastructure commerciale britannique qui est capable d'aller chercher de la soie en Chine, de l'amener à Londres et ensuite de l'exporter à Paris, à Lyon. Et les Lyonnais ensuite revendent la soie à Londres. Donc vraiment, plein de choses qui sont vues comme des déficiences. On peut très bien retourner ça en disant en fait la France était plutôt moderne dans son rapport matériel au reste du monde. Et la France de nos jours a... si vous voulez, c'est une extrapolation de ça. C'est-à-dire on importe énormément de matières premières et on exporte essentiellement des produits à très haute valeur ajoutée et des services.
La voix de Grégory Quenet, il s'exprimait dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France le 1er décembre 2021.
Il y a une sorte de dimension tragique dans l'écologie, dans l'histoire environnementale. Eh bien, pour chérir la nature, il faut l'avoir abîmée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on peut dire, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux les choses? Est-ce qu'on peut essayer de mettre en place une compréhension des temporalités qui soit plus disjointe? Et ça, c'est le propre des historiens. Hein, c'est ce que dit Marc Bloch très simplement quand il définit l'histoire. L'histoire est la science des hommes dans le temps et de leurs différences. Ce que les historiens savent faire, depuis qu'ils sont historiens, c'est articuler les différentes échelles de temps et d'espace pour comprendre les différences entre les sociétés humaines. Et c'est exactement cela qu'il faut saisir aujourd'hui, c'est comprendre comment, par exemple, confronté à une situation écologique nouvelle, une société comprend ce qui se passe, met en œuvre des politiques, fait certains choix qui ont tout à fait une cohérence par rapport à cela.
Si on en revient, Jean-Baptiste Fressoz, à l'utilité, à la force même de l'histoire environnementale, est-ce que, justement, comparer ces sociétés, celles du 18e, celles du 9e, avec la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça permet d'apporter la mise en lumière de ces dissemblances?
Alors déjà, quand on compare les années 1860-70 et les années 2020, on est frappé de voir à quel point l'économie française était minuscule et son empreinte matérielle était ridicule. Je vous donne un exemple, si on prend le cas du CO2, la France, entre 1789 et 1870, donc quasiment en un siècle, émet 1,5 milliard de tonnes de CO2. C'est ce que la France émet maintenant en 2 ou 3 ans. Oui. Donc vraiment, on est dans un tout autre monde. Et pourtant, la France des années 1850 se préoccupe beaucoup de changement climatique. Oui. Donc cette idée que nous, on serait beaucoup plus intelligents, réflexifs, qu'on se poserait beaucoup de questions est assez bizarre. En fait, on pollue beaucoup plus maintenant qu'au 19e siècle et on se pose pas forcément beaucoup plus de questions d'une certaine manière. Donc je crois que finalement, l'histoire environnementale de la France nous fait un peu tomber notre piédestal écologique, quoi, nous remet un peu à notre place sur notre capacité maintenant à vraiment faire changer les choses.
Je voudrais qu'on revienne par ailleurs sur ce 19e siècle et sur la façon dont il a transformé, notamment comment l'histoire environnementale nous permet de comprendre comment le rapport à la nature, le rapport à l'environnement ont transformé nos notions plus larges, et notamment la notion de paysage. On s'en a anthropophisé, si je me trompe pas, les paysages, et on s'est rendu compte qu'il y avait un attrait de plus en plus puissant pour les espaces naturels. Il faut nous comprendre pourquoi et comment la notion de paysage, justement, s'est peu à peu transformée durant ce siècle.
Alors, ça, c'est sûr que dans les archives, on voit à quel point l'appréciation du paysage change. Par exemple, au début du 19e siècle, il y a tout plein de procès contre les industriels de la chimie autour de Marseille. Et les habitants des alentours de Marseille demandent des dommages pour la destruction au paysage, parce que c'est l'industrie de la soude qui bousille en fait la végétation. Et de manière assez frappante, un juge dans les années 1820 dit « Alors, vous qui habitez dans les Calanques, là par contre vous n'avez aucun dommage pour le paysage abîmé, parce que qu'est-ce que c'est moche les Calanques, c'est que des rochers, c'est horrible, etc. » Donc effectivement, le beau
on
paysage...
On a du mal à comprendre ça,
aujourd'hui. Oui, maintenant on valorise évidemment le côté sauvage, etc. Ce qui n'était pas le cas en fait dans les années 1820, où on préférait les vallons ombragés, humides, etc. Donc c'est sûr que la culture du beau paysage change au cours du 19e siècle. Alors après, il y avait des choses qui précèdent notre époque. Je pense que, par exemple, la question du sublime des montagnes est bien connue, bien étudiée des historiens. Au 17e siècle, les montagnes sont des lieux horribles. C'est des lieux vraiment détestables. Fin 18e siècle, en lien en particulier avec le grand tour des aristocrates anglais, on se met à apprécier en fait les montagnes. Les montagnes, ça permet aussi l'exercice dans les montagnes permet de héroïser le voyageur et donc ça permet de valoriser en fait le jeune aristocrate anglais qui va faire l'épreuve de son courage et c'est un peu l'épreuve avant de goûter aux splendeurs de l'Italie, quoi. Donc il y a des moments où effectivement des bouts de paysage deviennent positifs quand ils étaient négatifs. La forêt est pas forcément vue comme extraordinaire au XVIIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle l'arbre prend une une place absolument centrale dans l'équilibre de la nature et du climat. Et donc la forêt aussi gagne beaucoup en valeur esthétique.
En quelques mots, hein, je l'ai dit, La nature en révolution, c'est le premier tome d'une trilogie. Il faut citer les autres titres à paraître dans les mois à venir. Les natures de la République, 1870-1945. Les natures du productivisme, 1940-2010. L'ambition générale, c'est quoi? C'est de créer une trilogie de synthèse de cette histoire environnementale et peut-être aussi de susciter quelques vocations?
Alors, l'ambition, c'était, je pense, de montrer que les historiens ont des choses à dire sur les questions environnementales et la question environnementale contemporaine. Les disciplines qui ont été centrales en France, la philosophie a joué un rôle très important, mais l'économie, évidemment, la grande discipline qui s'est emparée de la question environnementale, des fois en disant des choses assez étranges. Et les historiens, en fait, parce qu'ils ont un regard temporel beaucoup plus large, voient des choses que ne voient pas forcément les autres disciplines. Donc je crois que c'est ça le premier but. Le deuxième but, c'est de faire la synthèse de tout plein de travaux qui ont été faits par les auteurs et puis par plein d'autres collègues depuis les années 2000 sur ces questions d'histoire environnementale.
Un ouvrage passionnant dont je redonne le titre, La nature en révolution, une histoire environnementale de la France 1780-1870. Et les auteurs Jean-Baptiste Fressoz, François Jarige, Thomas Leroux, Corinne Marache, Julien Vincent, merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Premier tome de cette trilogie dans Question du soir.
Merci.